Tilt Show, l'émission qui vous évite de péter un câble.
Et bonsoir et bienvenue dans le Tilt Show. Je suis Aurore et bien sûr, je ne suis pas venue seule, je suis avec mes acolytes Boule et Tom Tom.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Aujourd'hui, dans le Tilt Show, nous allons parler de deux événements dont on a déjà un petit peu parlé pour le premier. Le CFEPA, pour vous donner les derniers classements des manches qui sont en cours. Et nous allons aussi parler d'un autre événement qui se passe en ligne cette fois, mais en équipe, le King 5 sur Winamax. Boule, dis-nous tout pour le CFEPA, on en est où là ?
Alors du coup pour le CFEPA, on en avait un peu parlé lors de la dernière émission, mais on n'avait pas encore les résultats définitifs qui étaient arrivés de la troisième manche, donc là ils sont arrivés. Donc on a une victoire de Soissons sur la troisième manche du coup, qui a gagné devant le Poker Club Lannoy et... devant Noyon et le Poker Club Lannoy, pardon.
Ils sont forts Soissons, ils sont forts.
Ouais,
Soissons. Ils ont de la chatte, Soissons. C'est ça qu'on disait dans l'émission de la dernière fois, non ?
Ouais, c'est ça. 5 victoires sur la journée, hein, sur 16 sit and go. Ça fait presque un tiers des sit and go quand même, hein. C'est pas mal, quoi.
Bon, il y a un petit peu de respect qui s'instaure, alors.
Et du coup, pour le moment, on a un classement général où on a toujours le Pumba Poker Club qui est en tête, mais qui a plus que 4 points d'avance sur Soissons. Et une dizaine de points pour Soissons d'avance sur l'Étincelle qui est troisième.
D'accord. Donc, dans l'ordre, le podium, c'est Saint-Sauveur, Pumba.
Pumba, Soissons et l'Étincelle.
L'Étincelle. Saint-Martin-Longo, l'Étincelle.
Saint-Martin-Longo, oui, l'Étincelle, tout à fait. Et pour la poule Somme, ça c'était pour la première, c'était pour les poules Haine-et-Oise. Donc pour la poule Somme, on a une victoire écrasante de Resson, puisqu'ils ont gagné le matin et l'après-midi avec 7 victoires en sit and go.
Ah la vache!
Presque la moitié des sit and go.
C'est les guêpes, hein, à Resson.
C'est les guêpes de Resson, c'est ça. Et ben ça a piqué sévère, apparemment. Et du coup, Resson qui prend la tête du classement général dans la poule Somme devant Moreuil à 19 points derrière et eux, qui est troisième, a déjà presque 40 points derrière. Quoi.
Ah oui, donc ils sont vraiment devant.
Ouais,
Resson donc Resson n'est pas dans la Somme, c'est bien. Du coup, tout reste dans l'Oise, mais non, Soissons, c'est pas dans l'Oise.
Ouais. Et pour info, Soissons ont monté 24e au classement national.
Ah,
belle performance.
Pas
belle
mal.
Performance. Donc voilà, ça c'était le point du coup pour les classements. Et du coup, il y a la première manche qui se joue aujourd'hui même à Gouvieux, la quatrième manche pour la poule Oise. Et donc on aura les résultats très prochainement.
Super. Ben voilà pour ces championnats de France par équipe. Et donc, il y a une autre compétition par équipe en ce moment même qui se déroule en ligne sur Wina, qui est le King 5. Et tu as monté une équipe, Boule.
Tout à fait. Donc, nous, on a monté l'équipe Friends Poker Oise. Donc, les amis du poker dans l'Oise. Hein, on fait ça toujours dans un but de passion, de loisir, pour s'amuser. Et du coup, c'est une compétition qui est par équipe de 5 joueurs sur Winamax. Et c'est ouvert à tout le monde, toute personne française depuis 18 ans ou espagnole. Sachant que si on a... les Français ne peuvent monter que des équipes avec des Français et les Espagnols que des équipes avec des Espagnols.
Ok, si j'ai un cousin en Espagne, c'est mort, quoi.
Voilà, on ne peut pas faire d'équipe mixte, on n'a pas le droit de mixer les équipes.
Bon.
Donc c'est ouvert à tout le monde. On peut s'inscrire pour ceux qui veulent encore monter une équipe, c'est encore possible.
Ok.
On peut s'inscrire jusqu'au 18 mars. Ce sera le dernier tournoi de qualification sur le premier stade. Donc, vous pouvez encore, si vous souhaitez, monter une équipe jusqu'au 18 mars et participer à cette compétition.
Il y a combien d'équipes qui participent à peu près ?
Là, cette année, on est autour de 5500 équipes à peu près participantes, donc 5 joueurs à chaque fois. Ça commence à faire un bon nombre de joueurs quand même.
On ne peut pas changer d'équipe entre cours ?
Alors non, on ne peut pas. Par contre, dès qu'un joueur a rejoint l'équipe, c'est impossible à modifier. Il n'y a aucune modification qui est possible. Dès que le joueur a rejoint l'équipe, c'est fini.
Donc faites attention de ne pas mettre des gens qui ne sont pas prêts à jouer le mardi soir à 20h30.
Après, à savoir que si...
ça engage quand même.
Il y a un joueur de votre équipe qui ne joue pas, ça élimine pas l'équipe pour autant. Les quatre joueurs peuvent jouer les tournois et quand même décrocher la qualification.
Il faut qu'ils soient encore meilleurs parce que du coup ils vont couper une patte quoi.
Ils ont un gros handicap quand même quoi déjà quoi. C'est... Et donc on a un premier tour qui se déroule sur 5 semaines où il y a 250 équipes qui se qualifient à chaque fois pour le second tour.
Chaque semaine, il y a 250 équipes.
Exactement, chaque semaine, il y a 250 équipes. La petite particularité cette année, c'est que quand une équipe se qualifie, elle peut continuer à participer au tournoi du premier stade. Et si elle arrive à se qualifier une deuxième fois, elle partira avec plus de jetons pour le second stade.
Ça serait bien déjà qu'on parte pour le deuxième, nous.
Déjà, ça serait bien qu'on se qualifie. On a eu deux manches assez moyennes, une très mauvaise surtout.
Après, oui, je ne sais pas si les auditeurs avaient compris, mais du coup, Boule, Tom et moi, on est dans la même équipe. On a trouvé deux autres acolytes encore pour former notre groupe de mousquetaires. Mais oui, du coup, on a joué ensemble déjà deux mardis.
Après, d'ailleurs, si vous souhaitez, vous pouvez, si vous souhaitez nous suivre le mardi en direct, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Friends Pokeroise aussi,
comme
le nom de l'équipe, et qui diffuse en direct donc le tournoi du King Five tous les mardis soirs à 20h30 en direct, et donc vous pouvez nous suivre notre aventure King Five. Avec éventuellement, au bout, on n'en a pas parlé, mais un sésame peut-être pour aller à Las Vegas.
Pourquoi on joue en fait ? C'est toujours pareil. Quel est le Graal ?
Quel est le Graal ? Encore une fois, un tournoi free-roll qui propose, j'en parlerai un peu plus tard, mais qui propose quand même pas mal de packages pour aller à Las Vegas.
C'est les 4 premières ou les 5 premières équipes, je crois, non ?
C'est les 20 premiers joueurs, donc les 4 premières équipes.
Ouais, les 4 premières équipes qui partent à Vegas, je crois.
Ça, c'est 20 personnes qui peuvent partir gratuitement à Vegas.
Je vais te dire ça exactement. Pour la première place, du coup, il y a 5 packages comprenant une place pour jouer le main event des WSOP 2025. Donc à 10 000 euros.
Dollars.
Oh là. Moi, je suis en Europe, hein, je suis désolé. Et du coup, ils prennent aussi 2100 euros à côté pour le séjour par joueur.
D'accord. Donc les 5 premières équipes, t'as dit.
La première place, les 5 premiers joueurs,
les 5 premiers joueurs.
La deuxième place, ils prennent 5 packages pour aller jouer un WSOP, mais à 5 000 $.
C'est déjà pas mal.
Ce qui est déjà sympa, avec toujours les 2100 euros pour le séjour, hein, tant qu'à faire. La troisième et quatrième, ils prennent des packages pour jouer un tournoi, un WSOP à 1 000 $.
Ok.
Et après, 5e à la 8e place, il y a 5 packages pour le main event Winamax. Et après, à partir de la 9e place, c'est des primes en cash qui sont versées directement sur les comptes Winamax.
Oui, des bolos pour un free roll.
En tout, la dotation, elle est de 338 000 euros.
Wow.
Donc pour un free roll, c'est quand même assez conséquent.
Après, on a dit qu'il y avait 5500 équipes, potentiellement du coup x5 par le nombre de joueurs par équipe. Ça fait quand même aussi beaucoup de joueurs potentiels à récompenser.
Bah, ils ont annoncé justement qu'il y avait donc en gros environ 30 000 joueurs donc tous les mardis présents pour jouer la.
Moi, je crois que c'est le record cette année en plus. Hein.
Tous les ans, on bat un nouveau record. Ouais. Tous les ans, il y a de plus en plus d'équipes. Je pense que c'est un format qui plaît bien aux gens. Et puis ça permet aussi justement dans le poker qui est un sport un peu individuel, justement de retrouver un peu vraiment un esprit collectif et d'être entre amis et de partager la passion du poker ensemble. Quoi,
oui, non, mais c'est le grand rendez-vous sur Internet en équipe en fait. Chaque année, on l'attend en fait.
À ma connaissance, d'ailleurs, c'est le seul par équipe. Ouais. Hein,
non, il n'y
a pas d'autres rooms qui proposent des tournois.
Il y a PokerStars qui propose aussi. Il y a PokerStars qui propose, je ne sais plus le nom.
D'accord.
Mais c'est pareil. C'est un peu moins intéressant, mais c'est pareil.
C'est le même genre de principe.
C'est une équipe de 4 ou 3. C'est le même principe.
Mais c'est moins connu.
C'est moins connu, c'est moins prestigieux que le King Five, ouais.
Moi, j'aime beaucoup, c'est entre les semaines, du coup, malgré tout, pour avoir un stack supplémentaire quand on arrive le mardi suivant, chaque joueur a des points à faire sur Winamax et donc on peut remplir des missions sur Winamax. Donc en même temps, ça incite vachement à jouer, hein, quand même, il faut dire ce qui est. Parmi les missions, il y a justement gagner une main avec King 5, donc avec Roi 5. J'adore cette mission.
Ouais, il y a plein de petites missions comme ça qui sont faites justement. Bah, bien sûr, le tournoi est free roll, mais du coup, c'est pour forcer les gens quand même à mettre un peu d'argent sur la room. Hein. Et les objectifs, je pense que c'est accessible assez facilement sans dépenser trop d'argent. On n'a pas besoin de mettre beaucoup pour réaliser les objectifs, avoir le premier palier, au moins avoir un stack de départ à 20 000 jetons le mardi soir. Faire 1000 points, ça reste assez simple. Hein. Allez voir sur Winamax ce qu'ils proposent au niveau des objectifs et des missions, mais oui. Ça reste des choses très simples. Hein. Comme disait Aurore, gagner une main avec le Roi 5, gagner une main avec un full ou mieux, ou alors juste être payé sur un sit and go, éliminer des joueurs sur un tournoi. Il y a plein de façons différentes.
Il n'y a pas de minimum de buying, donc on peut jouer au plus petit... vraiment au plus petit à 25 centimes ou à 15 centimes ou à 20 centimes.
Même jouer, si tu veux vraiment aller au plus bas, on peut même jouer en cash game à 10 centimes.
Oui, c'est ça, voilà. Pour ceux
qui veulent vraiment pas mettre d'argent.
On peut vraiment commencer très bas et en faisant quand même les missions. On n'est pas obligé de cramer 50 euros pour faire une mission, en fait. C'est ce qui est pas mal aussi.
Tout à fait.
Moi, pour ma part, je suis pas une très grande joueuse, hein, tout le monde s'accordera là-dessus. Mais... du coup, j'arrive quand même à faire la totalité de mes missions pour l'équipe, d'aller jusqu'au bout des 500 XP, c'est 500.
Alors, il y a 500 points à faire individuellement par personne dans l'équipe.
Donc, j'arrive toujours au bout. J'ai fait 2 semaines que j'arrive au bout et j'ai dépensé 5 euros. C'est quand même très raisonnable. Voilà. Parce que je ne suis pas très forte, j'aurais pu les gagner aussi, ces 5 euros. J'aurais pu me faire de la thune sur ces 5 euros. Mais voilà, ça m'a coûté 5 euros. Bon, ça va, je vais survivre. pour 2 semaines.
Tap. Un petit peu attaqué ta bankroll, mais ça va encore. C'est bon, pas...
Bon, ça va me la donner. Moi, je suis à plus 6, donc c'est bon.
Bon, ça va. Vous vous partagez
On se partage les gains.
Vous jouez ensemble?
Non.
Ah, bon.
Non, on n'a pas le droit de faire ça.
Mais du coup, pour en revenir à ce que tu disais, du coup, tout à l'heure sur l'émission, et ben, ça permet aussi de faire les 500 points. Ça permet de débloquer un bonus pour l'équipe. C'est ce qu'ils appellent le bonus champion. Ça permet d'obtenir, donc selon le nombre de points, si chaque joueur réalise 100 points dans l'équipe, ils vont débloquer un bonus 10%. Si chaque joueur réalise 250 points, ils vont débloquer le bonus 25%. Et si chaque joueur donc, réalise les 500 points dont tu parlais, et ben, du coup, là, il y a un bonus 50% donc, que le capitaine d'équipe peut remettre sur un joueur chaque semaine.
Ah, c'est celui que j'ai eu mardi dernier.
C'est celui que tu avais mardi dernier, tout à fait. Et en plus, tu as été assez loin dans le tournoi, ce qui fait que ça t'a fait pas mal de points. 50% en plus, c'est pas négligeable. Et il y a un deuxième bonus aussi qui rentre en compte, c'est le bonus kill. Donc à chaque fois qu'on sort un joueur, on prend 20 points. Et le fait d'avoir le bonus kill, donc on double ce nombre de points, on prend 40 points. Et ce bonus killer, il est attribué au joueur qui a réalisé le plus de points individuellement dans la semaine.
Donc celui qui a joué le plus, qui a fait le plus de missions, en fait.
Qui a contribué le plus aux missions, tout à fait.
Donc même si tu dépasses 500 points et ça fait 3000 points, c'est toi qui prends, quoi.
C'est ça, c'est celui qui a fait le plus dans l'équipe, qui aura fait le plus de toute façon, qui aura forcément le bonus killer à la fin.
Très bien. Ça, c'est pas toi qui choisis, du coup, c'est pas le capitaine.
Ça, c'est pas le capitaine qui choisit. Autant le premier, le bonus champion, le capitaine a le choix chaque semaine d'attribuer le bonus champion à qui il veut dans son équipe. Autant pour le bonus killer, c'est vraiment celui qui fera le plus de points dans la semaine qui l'aura automatiquement.
Mais si celui qui fait le plus de points, c'est pas celui qui fait le plus de kills?
Ouais. Eh ben, tant pis pour l'équipe. Je sais, alors pour rien vous cacher, je sais pourquoi elle dit ça, parce que dans notre équipe, c'est moi qui ai le plus gros volume de jeu et du coup qui produit le plus d'XP individuel sur une semaine. Et je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de kills, donc voilà, ça pénalise un peu la team justement de ne pas pouvoir choisir à qui on met le bonus kill, quoi.
Et moi, vu que le capitaine ne m'a pas donné le plus 50, du coup, pour l'instant, je suis nul.
Chut. Je te c'est pour la semaine prochaine.
Et du coup, j'attends d'avoir le bonus 50 pour faire la perf et
pour
nous qualifier.
Donner.
Ouais, voilà.
Ouais. C'est pas bien de faire ça, c'est pas très collectif
d'ailleurs,
de faire
si
ça.
Si vous avez
donc
l'occasion d'aller voir les lives sur YouTube, vous verrez que Tom Tom a fait un début.
Tonitruant.
Tonitruant.
Vers le bas.
Comme on a rarement vu.
Oui, et mais c'est là qu'il est meilleur, Tom. Dès qu'il perd un peu de jetons, du coup, ça lui donne une sorte de niaque.
Ah, je suis à zéro. Ouais.
Hop.
C'est bien. Et du coup, donc après, c'est les cinq premiers tournois de la première phase. Donc forcément, il va y avoir 1250 équipes de qualifiées pour la seconde phase, ce qu'ils appellent le round 1 et 2.
Il n'y en a que deux ?
Il n'y en a que deux.
Okay.
Il y a deux tournois. Donc là, il y aura un maximum à... Un petit détail important dont j'ai oublié de vous parler, c'est qu'il y a 100 équipes repêchées à la fin des premières manches. Les 100 meilleures équipes, qui auront les meilleurs scores sur les 5 premiers tournois, seront repêchées. Donc il y aura 1300 équipes, en fait.
1350 qui vont être...
Qui seront qualifiées pour le round 1 et 2. Donc le round 1 et 2, c'est pareil. Hein, deux tournois avec un joueur de chaque... 5 tournois avec un joueur de chaque équipe dans chaque tournoi. Et donc, à l'issue des deux manches, les 32 meilleures équipes se qualifieront pour les 16e de finale, qui se joueront en heads-up. C'est-à-dire que ça sera 5 heads-up à disputer contre une autre équipe, un joueur okay. À chaque fois.
Ah, vivement qu'on arrive là.
Et celui qui remporte bah forcément 3 heads-up gagnants, l'équipe qui remporte 3 heads-up sera qualifiée pour le tour suivant. Et donc, c'est comme ça, un système d'élimination à partir des 32 dernières équipes.
Un pénalty.
Voilà.
Ce sera des pénalties.
Comme pour les amateurs de football, comme une Coupe de France. Voilà.
Ce sera une séance de pénalty, 5 tirs au but, et celui qui marque le plus, il a gagné.
C'est ça.
Wow.
Les heads-up, ouais. Vivement
ouais,
qu'on arrive à ce
niveau.
Fort.
Moi, je suis pas très forte en heads-up. Hein. En vrai, je suis pas très forte tout court, en fait. Hein. Faut que j'arrête. Hein. Non, ça va, je me suis bien débrouillée.
L'important, c'est que tu t'amuses. Oui, tu prends du plaisir. Bon, l'essentiel est là, surtout.
Non, mais je savais pas que c'était en heads-up. Tu m'avais caché ça, boule.
Tu as l'intention d'arriver dans les 32 meilleures équipes.
Mais bien sûr.
Bon.
Bien sûr. Maintenant que je
sais bien, ça me fait
ce qu'on peut gagner et que j'ai la conviction que Tom Tom va se bouger, écoute, que toi tu vas te mettre à faire des kills, allons.
Venez nous suivre du coup la qualification mardi prochain annoncée par Aurore en live, magnifique.
Et la qualification du PSG en même temps en plus. Ça sera la fête mardi prochain.
Bon, parlons pas des choses plus tâches.
Et du coup, c'est bon, King 5, on a tout dit, tu penses ?
Eh ben, écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Après, à savoir aussi que les équipes qui se qualifient chaque semaine, à chaque fois, bien sûr, elles prennent quand même une petite prime aussi, minimum de 50 euros répartis donc, entre chaque joueur de l'équipe.
Ah, donc c'est un free roll, on peut quand même gagner de l'argent.
Oui. Chaque manche, il y a quand même un petit peu d'argent à gagner.
Le premier, il prend 1000, je crois, non ?
Le premier prend 1000 euros. Enfin, c'est 1000 euros pour l'équipe.
Oui, pour l'équipe.
Du coup,
oui,
ça fait 200 euros par personne de l'équipe. Hein, c'est déjà pas mal pour un free roll. Jusqu'au 250e où on prend 50 euros pour l'équipe. Donc 10 euros par joueur, ce qui est plutôt sympa déjà aussi. Quoi. En plus de la qualif, c'est un petit bonus sympathique.
On remboursera la banquerolle à Aura.
C'est ça. Ça me va d'arriver 250e, hein. Ça suffit. Hein.
Ah, nous aussi.
On signe tout de suite. Hein. On signe tout de suite pour la 250e place, pas de problème.
Eh ben, venez nous voir sur YouTube mardi prochain alors. Les clés du poker, c'est donc la partie où on explique une règle. Donc maintenant que vous avez compris comment se passe un tour de jeu, quand est-ce qu'on doit miser, folder, etc. Il y a une notion qui est très importante et finalement qui a l'air toujours un peu compliquée pour les joueurs. Boule, explique-nous.
Et ouais, cette notion, c'est comment calculer une cote en fait dans un pot. Donc le concept de cote du pot, c'est un facteur quand même qui est crucial de décision au poker. La cote du pot, ça réfère à la relation entre la taille du pot et la taille de la mise. Par exemple, je prends un exemple simple, s'il y a 10 euros dans un pot et que vous avez à payer 2 euros, cela vous donne, ça vous donne une cote en fait du pot qui est à 5 contre 1. Si vous avez à suivre une mise de 5 euros dans le même pot qui est toujours de 10 euros, cette fois vous aurez une cote de pot qui est à 2 contre 1. On va prendre un exemple plus en détail. On va prendre un exemple en limit hold'em parce que ça va simplifier les calculs et ça va simplifier la chose pour commencer. Donc, après, il faut se dire qu'en no limit hold'em, c'est à peu près le même calcul, ça joue à 1 ou 2% près. Ça ne diffère pas énormément non plus, quoi. On est sur une partie de limit hold'em à 1-2 euros.
Donc, comme un cash game ?
Comme un cash game. Okay. On joue en cash, on va dire. Donc, 1-2 euros. On a As-Roi au bouton.
OK.
D'accord. Tout le monde se couche. Et il y a la small blind et la big blind qui complètent.
Donc toi, t'es au bouton, t'as fait quoi déjà ?
Pardon, je vous ai pas dit ce que j'avais fait. Ouais, si je joue pas avant...
Non, j'essaie de suivre.
C'est embêtant. Mais heureusement que tu suis d'ailleurs, quoi. Alors, je reprends du coup. Donc, on a As-Roi au bouton, tout le monde se couche, nous on relance à 2.
Tu relances à 2 ?
Ouais.
Tu relances 2-2, du coup tu mets 4 ?
On relance 2-2, c'est ça, on met 4. Et du coup, il y a la petite blinde et la grosse blinde qui suivent.
Okay.
On est d'accord. Donc là, c'est bon, ce coup-ci, on est tout bon. Du coup, il y a Valet-Dame 3 qui tombe. La petite blinde, elle mise 1.
Donc il y a 13 euros dans le pot.
C'est ça. C'est complété par la grosse blinde.
Il y a 14 euros dans le pot.
D'accord.
Je fais l'assistante.
Impeccable. Et c'est bien.
Vous la voyez
pas
mal.
Et du coup,
t'as une cote. Comme à la boxe.
Et du coup, t'as une cote de combien là-dedans ?
Du coup, il faut que je rajoute 1 pour 14 euros dans le pot.
Exactement.
Je suis très nulle en maths, par contre.
Tu rajoutes 1 pour 14 euros dans le pot.
J'ai la cote. J'entends souvent les joueurs dire ça. Ou quand il y a beaucoup de gens qui payent, ils vont dire « Ah ben là, les gars, vous me donnez la cote, je vais jouer. » Donc j'ai l'impression que c'est quand on rajoute pas beaucoup pour un pot qui est pas mal.
Bah ouais, du coup, en fait, si on détaille bien, t'as 3 joueurs, du coup, qui ont mis 4 euros avant le flop.
Mm-hmm.
D'accord ? Donc là, on est à 12 euros. Après, il y a tout le monde qui a rajouté...
1.
Du coup, on est monté... À
14 euros.
Ainsi, du coup, tu as 14 euros en tout. Et tu as 1 pour aller chercher 14 euros. Donc, tu as une cote immédiate de 14 contre 1.
Ok, tout simplement. Ah oui, d'accord, tout simplement.
Voilà. La cote du pot, elle est laissée comme ça, du coup, à 14 contre 1. Donc là, maintenant, c'est juste savoir quoi en faire. On a réussi à calculer la cote de notre pot.
Donc en fait, plus la cote elle est grosse, enfin plus le premier chiffre est gros et plus c'est intéressant.
Alors c'est ça, en fait. Plus le premier chiffre va être gros, plus la main que tu as, elle a une grande espérance de vie. C'est ça en fait. Et c'est ça qui va te dire si ta main va être gagnante en la jouant tout le temps de la même façon sur du long terme ou si elle va être perdante.
Donc avec ton As-Roi, tu peux payer ton 1 tranquille quoi. Là, même si
tu
n'as pas touché, même si...
Parce que tu as beaucoup d'out qui viennent. Mais en fait, pour savoir si c'est vraiment intéressant de payer, il y a un deuxième facteur qui interviendra. Il va falloir calculer les out.
Eh oui.
Et ça, les out, je vous le garde pour une prochaine émission.
Ouais, c'est ce qu'on appelle l'équité, c'est ça ?
C'est ça,
l'équité
ça sera l'équité.
Est-ce que ça vaut le coup de payer et en même temps, est-ce que tu as beaucoup de chance encore avec ta main ? C'est ça l'idée, c'est de mettre ces deux facteurs-là.
C'est une chose qui paraît super dure, mais c'est super simple en fait. Il y a un calcul qui est tout basique et on vous l'apprendra la prochaine fois.
C'est ça quoi, on dit le poker c'est beaucoup de mathématiques, mais en fait c'est des calculs qui sont très simples, qui reviennent très régulièrement, c'est toujours les mêmes calculs qui reviennent. Donc avec le temps ça devient vite un automatisme en fait de faire ces calculs-là. Il faut juste se forcer à les faire au départ, et après ça devient vite une habitude, un automatisme, ça se fait tout seul.
Est-ce qu'il y a une cote qui est plus intéressante ou pas pour... Enfin, à partir de quand on estime que la cote, elle est bonne pour jouer ?
Ça, justement, il faudra apprendre d'abord aussi à calculer ton équité à faire la mise en relation entre la cote et l'équité pour savoir si c'est intéressant de payer.
D'accord. Donc on saura tout ça la prochaine, lors de la prochaine émission. Tu ne vas pas nous faire languir trop longtemps, j'espère.
Non. Directement dans la prochaine émission. Après, il y a vraiment un point qu'il faut vraiment garder en tête et qui est très important. C'est qu'on doit toujours, quand on joue un coup de poker, on doit toujours être conscient de la taille du pot. Parce que c'est quelque chose vraiment qui va, sur du long terme, qui peut vous amener à être perdant ou gagnant, quoi, selon comment vous gérez, comment vous gérez les cotes, les équités. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez être gagnant ou perdant sur du long terme. Alors on ne parle pas sur une partie, parce que sur une partie, tout peut arriver. Mais vraiment, si vous jouez 200, 300, 400 fois la même main, si vous la jouez de la même façon, c'est ça qui va vous dire si vous allez perdre ou gagner de l'argent avec.
Puis même la taille du pot, elle est importante parce que quand on veut faire une ouverture ou une relance, on va toujours regarder combien il y a dans le pot. Est-ce qu'on va faire 30% du pot, 50% du pot, 70% du pot on calcule aussi comme ça quand on va miser.
C'est vrai, mais c'est important de le faire parce que c'est ça qui fait, encore une fois, le poker, c'est aussi une histoire. Donc selon le montant que vous allez faire dans le pot, vous racontez une histoire. Selon le montant que vous investissez, vous annoncez que vous avez potentiellement tel ou tel jeu, que vous avez ou vous n'avez pas d'ailleurs. C'est juste l'histoire que vous racontez au joueur en face de vous.
Elle passe par la
Après,
mise.
À lui de vous croire ou de ne pas vous croire. Est-ce que l'histoire est vraie? Est-ce que c'est que de la poudre aux yeux? Ça, à chaque joueur de décider.
Merci beaucoup, Boule. On attend la prochaine émission pour compléter cette règle avec impatience. En attendant, on va parler d'une main.
La main parfaite du Tilt Show.
Eh bien, la main parfaite, c'est moi qui vais vous la proposer aujourd'hui. Il s'agit d'une main que les joueurs, en vrai, n'aiment pas tant, qui est bonne, qui n'est pas non plus extra, mais qui est quand même bonne. Il s'agit des valets.
C'est quand même partie du top 10, top 15%, top 10% des mains, de toute façon.
Est-ce que tu as à grogner, toi ?
Non, c'est une très belle main, mais oui, difficile à jouer, mais une très belle main, oui.
Eh oui, les valets, c'est une belle main, mais en même temps, comme tu dis, voilà, difficile à jouer. Donc voilà, moi, un jour, j'étais en tournoi et je retourne les valets. Ma position, je suis au cut-off, donc je suis juste derrière le dealer. Donc en vrai, je suis bien. Je suis bien pour
la bonne place.
Pour la jouer, c'est pas mal. Donc les blindes, elles sont à 200, 400. Il y a un premier.
En T400.
Il y a un premier joueur qui relance à 1100, donc il fait
cher déjà.
2,8.
Une relance classique, blindes. J'ai envie de dire, une ouverture classique. Il a encore du monde à parler derrière, il ne veut pas que tout le monde rentre dans le pot non plus. Quoi. Ouais, ça me paraît logique jusque-là.
C'est payé une fois, ça arrive jusqu'à moi, et là je me dis, bon, payé une fois, moi j'ai encore 3 personnes derrière moi. Si je paye juste, je risque de leur donner la cote.
Justement, on y revient. Mais oui, en effet, si tu payes avec des cartes plus mauvaises, ils vont avoir une cote pour payer dans ce pot-là. Quoi.
Donc du coup, ce que je fais, c'est que je re-raise à 4200. Et là, j'arrive à faire folder le dealer, la small blind, la big blind. Et sur les deux personnes qui avaient mis 1100, il n'y en a qu'un qui me colle.
Aïe.
Il n'y en a qu'un, ça va. On est en heads up. En vrai, c'est ce que je veux. Je ne veux pas être plus que deux.
C'est sûr. Je comprends qu'on veut isoler, se retrouver en tête à tête, comme ça.
Donc, bon, pour moi, jusque-là, tout va bien. On est en heads up. Je suis contente. Donc, j'ai mes valets, un valet de carreau, un valet de pique. Le flop tombe. Que du carreau. As, 10, 6. De carreau. Et là, je me dis... Ok, c'est bien parce que j'ai un carreau.
C'est pas mal.
C'est mieux que de ne pas en avoir.
Ouais, en plus, t'as quand même un carreau avec une... Enfin, t'as le valet, du coup, c'est quand même une hauteur qui est sympathique en plus.
Voilà. Devant moi, il peut avoir du coup juste le roi ou la dame, mais vu que là, c'est le 10, ils sont sur le board. Mais bon, du coup, je me dis, bon, ok. Bonne nouvelle, comme je suis pas première de parole, c'est à l'autre d'ouvrir le bal. Et il check. En même temps, c'est un peu logique, c'est moi qui ai re-raise. Bon,
c'est
voilà.
Toi qui as le lead sur le coup, il a pas de raison de reprendre le lead à ce moment-là, je pense.
Il check et moi je me dis, qu'est-ce que je dois faire? En fait, vraiment, je me sens un peu perdue parce que je me dis, ma main, elle est pas mauvaise. En vrai, le flop, il est plutôt bon pour moi, j'ai l'impression. Mais il y a quand même l'as qui m'embête. Et puis potentiellement, si jamais lui, il avait déjà deux carreaux en main, bah, la couleur, je peux toujours l'attendre. Quoi. Ou elle peut me coûter cher si je veux aller la chercher river. Parce que mine de rien, j'ai un carreau, mais il en manque toujours un pour que moi, j'efface une couleur. Donc, je tanque un petit peu, je me dis qu'est-ce que je fais, et je décide de c'est bête, et je remets 4002, comme j'avais mis pré-flop. Et l'autre fold. Alors bon, ben voilà, la main était parfaite.
C'est un peu beaucoup, 4002, je pense.
Donc oui, je pense qu'il n'avait pas l'as, sinon il me payait.
Ah oui, je pense.
Et
du coup, pourquoi mettre aussi cher pour faire folder quelqu'un, en fait? Je pense que 3000, ça suffisait largement, en fait. Parce que, en fait, s'il te paye 4002 ou s'il te relance, en fait, tu fais quoi après?
Ah bah, s'il me relance, je suis obligé de folder.
Bah ouais. Donc,
c'est la merde.
Donc, en mettant moins d'argent au milieu, tu foldes, mais tu perds moins.
Ouais, mais est-ce que du coup, en mettant moins d'argent au milieu, il se dit, j'ai que 3000 à rajouter dans un pot qui fait blabla?
Parce que maintenant
qu'il
a vu trois cartes, il sait que s'il les rajoute, c'est qu'il a forcément minimum un carreau, un gros carreau ou un gros as. Parce que vu qu'il était avant toi de parole...
Vous écartez aussi un peu rapidement, je trouve, une possibilité qui est probable. S'il paye, bien sûr, hein, c'est qu'il peut très bien avoir les dames ou les rois aussi.
Ah oui, avoir une paire servie aussi.
Au-dessus. Ou même avoir la paire d'as, ouais, mais toucher son as au flop.
Mais forcément avoir un
roi ou une dame d'as pour moi.
Il a payé ta sur-relance pré-flop quand même, donc il annonce quand même qu'il a une bonne main aussi.
Oui, mais avec les rois, les dames, s'il n'a pas la dame ou le roi de carreau, il fold.
Certes.
Sur un board comme ça...
C'est la pire main que tu peux retrouver en face de toi, c'est un roi dame de carreau sur ce tirage-là, voilà. Où il se retrouvera avec un tirage quinte ventrale plus le tirage carreau. Et là, ouais.
Couleur même, couleur flopée.
Quinte flush.
Quinte flush, royal.
Bon, on n'est pas en quinte flush parce qu'il y a As-10-6, mais... Ouais.
Non, mais il pourrait avoir un tirage quinte flush. S'il avait
pourrait,
roi-dame,
il pourrait en tout cas, carreau. Ouais, tout à fait.
Donc... Ah bah non, il pourrait pas parce que c'est moi qui l'ai, le jeu valet
de
carreau.
Il y avait un 9-8 de carreau.
Moi déjà, je trouve que ton ouverture déjà pré-flop, elle est chère.
Non.
Oh non, moi je trouve pas. Non. Enfin, en vrai.
Justement, déjà...
Parce que déjà, dans le pot, il y a déjà 3004 3002. Il y a 3002 dans le pot.
Il y a 3002 et tu fais 4002, donc tu fais un overpot.
Ouais, mais pré-flop, en fait...
Ouais, parce qu'il y a encore 3 personnes à parler derrière moi. Il y en a déjà 2 qui ont collé relance-call.
Tu veux pas jouer un coup à 5, en fait.
Bah non, mais je pense que juste déjà, le fait de faire un 3-bet, déjà, tu vas en faire folder 2 sur les 4, je pense, déjà.
Ouais, mais les autres, ils ont pas mis d'argent. Mais si les 2 payent qu'ils ont déjà, mis, après, avec l'as au bord, tu sais vraiment plus à 2... Je préfère jouer un pot à 2 qu'à 3, moi, en tout cas, personnellement.
Ouais, bien sûr. Non, mais ça, c'est une évidence que, bien sûr, il faut arriver à isoler, mais je pense que...
T'aurais mis combien?
Moi, je pense que je serais plus... Il y avait 1100 d'ouverture. Je pense que remonter à 2,5 là-dessus, c'est-à-dire 2006, 2008, je pense que c'est pas mal, quoi.
Ouais, c'est... Le problème, c'est que t'es payé tout le temps par n'importe quoi, en fait. Moi...
Non.
Si le mec a relancé...
Sur un 3-bet, déjà, dans un coup compliqué, ouais, avec même... 4 joueurs, tu peux pas.
Je suis... excuse-moi, mais j'ai déjà payé la relance Aurore 3-bet. On va dire que j'ai 9 et 8 ou de Paris ou un truc comme ça. Le mec devant moi, il paye, moi je paye.
Ça lui donne la cote, justement.
Ça lui donne la cote et justement, je joue pas forcément les mêmes cartes. Et en mettant un peu plus cher, ça m'embête de payer un peu plus cher pour des cartes comme ça. Tu vois.
Ouais, je suis pas sûr qu'il ait vraiment une cote quand même. Là, si en lançant à 2,6 avec ce qu'il y a, je suis pas sûr qu'il...
Bah, t'aurais pu faire folder 9-8 de carreau, tu vois.
Ouais, mais en même temps, tu peux, avec les valets, c'est toujours le risque aussi. Tu peux tomber sur une paire au-dessus de toi.
Ah, mais faut limiter le risque. Ah non, je pense que.
Oui, mais du coup, en mettant cher, au pire, je suis pas payé. C'est pas grave, je gagne mon coup. Voilà, mes valets sont tranquilles. Et là, je suis payé qu'une fois. Ça, c'est exactement ce que je cherche. Donc, ça me semble moins grave de mettre cher à ce moment-là, tu vois. On va c'est dire ça. Si je devais mettre, peut-être que j'aurais peut-être pas dû mettre autant, par contre, après le flop.
Mais post flop, ça crée un gros pot d'entrée. Du coup, ça peut être un coup qui va prendre une envergure potentiellement extravagante,
flop.
En fait. Quoi.
Ouais.
Ça fait tout de suite créer un gros pot pré-flop. Alors que bah, finalement, on n'a encore rien vu des cinq cartes qui vont tomber, quoi.
Et oui, mais attention, chers auditeurs, Boule est très conservateur et joue vraiment que très
vrai.
Peu. Et, à part les as, où il est capable de mettre beaucoup sur la table, et encore, je ne suis même pas sûr. Voilà.
Ce qu'on appelle chez nous une vieille serrure.
Je suis plus dans la pêche, moi, mais...
Non, mais moi, c'est au niveau du flop, je pense que tu mets beaucoup trop cher.
Bon, c'est bête, il est trop
cher. Moi, je pense que je check oui, presque, aussi. En fait. Je peux checker là-dessus, en fait.
Alors, je et voir. Il y a quand même un as, il faut quand même que tu puisses te ouais, situer mais, dans le coup avec
bah, justement, valets, en fait, le mec, il est UTG2, il a une range avec As-Dame, As-Roi, As-Valet, Mac.
Bah, t'as envie de savoir. Alors, bah, ouais.
Pas forcément, en fait, je peux faire jouer après, moi.
Oh, moi, je peux savoir, moi.
C'est cher ce qu'elle a fait, je suis
non,
d'accord avec toi.
Je carreau, en fait, je pense que je suis presque max, en fait.
Je pense que là-dessus, du coup, on a un pot après le flop qui est à 6300.
Ouais.
Non, 4002 payé une fois avec les blindes et tout, on a un pot à 10 000 quasiment.
À 10 000 quasiment.
Bah non, il y avait eu 1100 collé
payé
une fois.
C'est 2002.
Donc toi, t'as mis 2006.
Non, moi j'ai mis 4002. Moi j'ai mis 4002 pré-flop. Donc payé une fois, on est
du
à 8004.
Ouais, donc il y a 10 000 dans le pot.
Ouais, il y a 10 000 dans le pot quasiment.
10 000 dans le pot, tu peux. T'as fait 4002, t'as refait 4002.
Ouais,
je pense que.
Non, moi, 3000... je check et je joue au poker à partir de là.
Oh, une petite mise quand même, un petit 3002, ouais. Un tiers pot, au moins, t'as arrivé à te situer, savoir où tu te situes par rapport à l'as.
Tu peux mettre 1000 de moins, quoi.
Je pense que ça te fait économiser 1000 si même... tu te fais revenir dessus, puisque de toute façon, tu l'as dit toi-même, tu avais open pour fold s'il te relançait.
Ouais.
Donc, je pense que dans ces cas-là, tu lui poses la même question en faisant 2005, 3000. Tu lui poses la même question qu'en faisant 4002. Et du coup, s'il te relance, t'économises des sous, quoi, en fait.
Mais moi, ouais, j'aurais peut-être check pour lui laisser tous ses bluff turns, en fait. Sachant que j'ai une belle main.
Ouais, mais toi, en plus, tu le vois avec une range, si tu mais check, en le voyant sur une range de l'as.
Je peux coller turn, tout dépend combien il met, mais je peux coller turn.
Bah, tout dépend de la turn après aussi.
Oui, voilà, c'est ça.
Et oui. On n'a pas vu, du coup.
Et après, je pense que si j'y garde ses bluffs et je le paye à la turn, c'est check, check, river, et je gagne le pot sans prendre de risque énormément, en fait.
De toute façon, après, en gros, si on va voir une turn, il y a quoi comme main qui nous fait peur. À ce prix-là, le tirage quinte ventral, jamais il va le chercher. Donc, au pire, on a emmené un tirage couleur avec une grosse hauteur à carreau. On a emmené une paire de rois, une paire de dames, enfin une paire supérieure à nous, une paire d'as aussi, qui a touché son brelan. Un as 10 floppé. À la limite, mais qui doit quand même avoir peur des carreaux, quoi. Au bout d'un moment, c'est déjà 3 carreaux.
Normalement, As-10 flopé, UTG2, il est plus là pré-flop. Hein.
Ah, tu sais, ouais, comme moi, sûr. Que dans le poker, on tombe sur des joueurs un peu atypiques des fois.
On parle de théorie, normalement, As-10, 3 bêtes, normalement, il s'en va.
Oui, logiquement.
Il... Ses gens, il va boire son café au bar et il revient après la main.
On est d'accord. Si c'est moi, je suis parti depuis longtemps. Hein. On est d'accord. Quoi, c'est...
Il l'a même pas ouvert, le As-10, il l'a jeté.
Ah ouais, je l'ai même pas regardé, celui-là.
Non, mais c'est ça, c'est les grosses mains. Soit les paires supérieures, soit les As-Roi, As-Dame...
C'est ça. Donc après, on n'est quand même pas trop mal. On a quand même le valet, le tirage couleur qui peut arriver derrière. Il y a deux cartes encore à venir.
Au misant au flop, tu ne fais pas folder l'as. Tu ne fais pas folder un plus gros carreau que toi.
Non.
Donc en fait, en misant, tu fais folder rien, à part le mec qui n'en prend pas total et qui a rien, qui a un roi-dame déparié ou un roi-dame à pique. Ou... Si le mec il a collé trois bêtes, c'est qu'il va coller avec un as, il va le coller là. Il va le coller flop, en fait. Et après, à la turn...
Ouais, mais au moins, je sais. Alors que si je le bête pas...
Non, mais si
je le bête pas...
En fait, il peut avoir dame de carreau...
Si je le bête pas post-flop, bah, du coup, moi, je sais pas ce qu'il a. Alors que là, je le bête, s'il me paye, bah, je sais qu'il a quelque chose, comme tu dis. Et s'il fold, bah, je suis contente, j'ai gagné mon coup, mais...
Ouais.
Moi, j'ai besoin de me situer, je peux
moi,
pas...
Moi, je rejoins Aurore là-dessus, quand même. Savoir où situer dans le coup, toujours savoir où on est à peu près dans un coup et savoir se situer, c'est important, quand même.
Moi, j'ai dit, j'aime pas laisser les gens toucher gratuit.
Ouais.
Moi, j'aurais checké et j'aurais joué au poker à partir de la turn, je pense. Mais vraiment, en lui laissant tous ses bluffs parce que c'est lui qui parle premier.
Ouais, mais tu prends le risque de faire rentrer tous les tirages, peut-être qu'éventuellement il allait chercher avec son check aussi.
C'est ça.
Donc bon, donc c'était pas un mauvais coup, mais effectivement il y avait différentes façons de le jouer. Bon,
alors à savoir gagné, que de toute façon, à partir du moment où on prend le pot, c'est jamais un mauvais coup.
C'est pas faux.
Oh, moi je suis pas d'accord. On peut très mal jouer un coup et le prendre.
Oui, mais pour toi personnellement, il sera jamais mauvais.
Bah c'est... si, parce que si tu travailles un peu ton poker, tu peux dire j'ai mal joué, mais j'ai quand même pris le coup. Tu
aurais pu gagner grave, plus. Je le prends quand value, même.
Ah, on le prend, surtout en tournoi, on le prend. On va pas dire je le laisse, mais.
Bah, il faut un peu aussi de temps en temps.
Et dans l'écho des tables, nous allons avoir un sujet d'actualité aujourd'hui. Il s'agit de la réouverture des cercles de jeux parisiens.
Et oui, après 2 mois de fermeture, les clubs de jeux parisiens ont pu rouvrir leurs portes la semaine passée. Le Conseil d'État a validé la réouverture le 25 février et du coup, ils ont pu rouvrir dès le 27 ou le 28, je ne sais plus exactement. 28 février, je crois, ils ont rouvert.
28, ouais.
Du coup, ça faisait 2 mois qu'ils étaient fermés, donc ça commençait à faire long pour nous, les joueurs, qui ne pouvions plus y aller, du coup. Les 7 clubs, du coup, ont pu rouvrir leurs portes, ce qui a aussi fait retrouver l'emploi de 250 employés. Quoi.
Après, si on parle de poker, la grille de tournois du club Circus est déjà ouverte, avec 2 tournois par jour. Donc très intéressant.
Ah bah, en même temps, ils ont eu le temps de se préparer à la réouverture.
Ah bah là, du coup, ouais.
Ouais, mais c'est les seuls sur Paris qui proposent autant de tournois en fait.
Ils ont quoi faire. Alors à savoir que pour le moment, c'est pas encore une réouverture définitive. C'est un projet de loi comme auparavant. Hein. Le projet de loi était arrivé à la fin de l'année 2024, était arrivé à son terme en fait. Et du coup là, ils ont revoté un projet de loi qui ira jusque fin 2027.
Donc il faut qu'il soit voté avant fin 2027.
Donc avant fin 2027, il va falloir qu'on en revote encore un nouveau pour savoir si on continuera l'expérience des cercles de jeux à Paris l'ascension. Ou pas.
C'est à cause de l'ascension du gouvernement à la base.
Oui, mais on rappelle qu'en fait, il n'y a aucun casino qui est autorisé dans les villes en France. À part Paris qui a une dérogation pour ces 2 casinos, le Barrière et le Partouche. Tout ce qui est cercle de jeu, sinon c'est complètement interdit. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose qui est expérimenté maintenant depuis 5 ou 6 ans, mais ça reste encore que de l'expérimentation. Il n'y a rien de définitif au niveau des lois. Et...
Ouais, mais après vu les parties au noir, pas forcément très cadrées ou quoi que ce soit.
Ouais. Oui, ça évite aussi, du coup, les...
On est bien...
On estime quand même la perte de l'État, parce que l'État, bien sûr, sur tout ce qui est cercle de jeu, ils prennent aussi leur part
de
taxes dessus. Et on estime quand même, pendant ces 2 mois de fermeture, un peu plus de 2 millions d'euros la perte pour l'État. Donc c'est quand même un chiffre considérable.
Paris, c'est énorme.
Juste pour les cercles de jeu parisiens, les 9 cercles de jeu parisiens, quoi, c'est...
Il y a l'État, et il y a la ville de Paris aussi qui prend des taxes sur ces cercles de jeux.
Certainement, là, l'État prend des taxes au niveau de la ville, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais ça, enfin, étant implanté sur leur territoire, ça me paraîtrait assez logique qu'ils veulent aussi, prendre leur part.
Je crois que c'est un 10e ils prenaient quand même pas mal.
Il faut savoir qu'en gros, l'argent qui est encaissé par un casino, un cercle de jeu, déjà le casino, le cercle de jeu, reverse 60% de cet argent-là déjà à l'État en taxe. Quoi. C'est un chiffre qui est considérable.
Oui, donc c'est rentable, mais quand même, il y a une grosse part qui...
Oui, sur les 7 jeux cercles parisiens, il y en a 3 ou 4, je crois, qui proposent du cash game tous les soirs. Et à ma connaissance, un seul, le Circus, qui propose vraiment des tournois hebdomadaires régulièrement. Il y a l'Élysée Montmartre de temps en temps, aussi qui est à l'Élysée, qui en propose de temps en temps, mais c'est pas leur politique. Mais ouais, pour jouer au poker, le Circus en mode tournoi. Comme je vous ai dit, ils proposent deux tournois par jour et c'est vraiment agréable quand même.
Alors, à savoir que dans les sacs de jeux, dans le nouveau projet de loi, il y a d'autres jeux que le poker aussi qui ont été autorisés.
Pas officiellement, je crois.
Officiellement. Le blackjack et le bingo. Par contre, pour tout ce qui est machine à sous et toutes choses comme ça, par
roulette.
Contre, roulette, ça sera... Et la roulette,
ouais. Ils voulaient la roulette, par
exemple. Ils voulaient la roulette, mais ils ne l'ont pas eu. Et tout ce qui est machine à sous et roulette, bah ça restera à l'exclusivité des casinos, quoi.
Mais il y a quand même d'autres jeux de table, oui.
Mais du coup, ouais, il va y avoir le jeu de table, il va y avoir le blackjack, et je sais que...
L'ultimate, le Punto Banco...
Ah oui, c'était ça, je cherchais le nom,
le Punto Banco. Qui n'est pas proposé dans beaucoup d'endroits, mais qui est assez marrant.
Si, si, dans les, dans les sacs parisiens, dans tous. Hein.
Ah, dans les sacs parisiens.
Tous.
Je ne suis pas un grand habitué des cercles parisiens.
Je ne suis pas un grand habitué du Punto Blanco, mais ça me fait rire.
Moi non plus. Mais moi, j'ai une anecdote. Je joue un tournoi au poker au Circus. Et à ma gauche, il y avait un joueur assez sympathique. On rigolait. Et en fait, tous les 10 minutes, il se levait de la table et il partait pendant un quart d'heure. Puis au bout d'un moment, tu vas où ? Bah, il allait jouer au Punto Banco pour son tournoi de poker.
Ah, il se levait comme ça, puis il allait faire un petit jeu
de table, deux, trois mains comme ça.
C'est ça, il revenait avec beaucoup de jetons et hop, il était content. C'était assez fou. Hein.
Ah bah, ça va pour lui. C'est marrant ça du coup.
Ouais, c'était assez marrant.
Parce que, en général, quand on fait un tournoi, on essaie toujours de rester vachement concentré dans son tournoi, savoir comment les joueurs de la table y jouent. Il y a toute une sorte d'ambiance pour jouer notre tournoi une fois qu'on est assis à table. Dans lui, il s'en fout et il se barre jouer au Punto Blanco.
Bah, je pense que déjà, ça prouve que le gars c'était un joueur récréatif déjà, qui était là pour faire son tournoi de poker, mais qui.
On dit les tentes, quoi.
C'était juste pour passer un bon moment, a priori, plus que pour gagner le tournoi de poker, quoi. C'est...
Oui, il était plus là pour le cercle de jeu qu'autre chose.
Et quand t'es sorti, il était toujours là ou...
Ah, il avait monté un stack monstrueux. Il revenait 10 minutes, il faisait 3-4 mains, il remontait un stack et puis il repartait.
Mais j'en ai eu un comme ça au King 5, justement, mardi dernier. Il y avait un mec, il était... absent, il était noté absent sur la table, très régulièrement dans le tournoi. Il revenait, il voyait deux mains, il faisait une boîte, il doublait, il se remettait absent encore pendant 10 minutes, un quart d'heure, et au bout du compte, il était toujours là, je crois, quand moi je me suis fait éliminer, et j'avais le seum contre lui. Parce
d'ailleurs,
que...
il m'a semblé que tu avais pris, il t'a fait assez mal à un moment où il est revenu, justement, comme ça, il s'est dit, tiens, elle, je la croquerai bien.
La légende dit qui jouait au Punto Banco.
C'est ça. J'avais grave le seum contre cette personne absente qui faisait des boîtes quand il revenait tout le temps. Là, ça m'énervait.
Ouais, c'est énervant quand il y a un joueur comme ça qui joue le tournoi en étant là une main de temps en temps, qui s'en fout complètement. Et en plus, à chaque fois qu'il arrive, il va avoir une grosse main et il va gagner la main. C'est...
Ouais,
du coup, il repart une demi-heure parce que de toute façon, il a pris des jetons pour deux heures de jeu. Donc, c'est bon. Ça arrive dans beaucoup de tournois, mais on n'est jamais très content d'avoir ce personnage à notre table.
On appellera donc ça la légende du Punto Blanco. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas tant qu'on vous incite à retourner jouer dans les clubs parisiens, mais c'est rouvert, il y a de quoi se faire plaisir. Et puis on incite toujours à la prévention, quoi qu'il arrive. Faites attention à votre porte-monnaie. Et puis, ne mettez pas votre compte bancaire à l'envers. Si vous avez des proches ou que vous-même, vous vous sentez en difficulté par rapport à ça, il y a un numéro qui est ouvert jusqu'à 2h du matin.
À 2h du matin, de 8h du matin à 2h du matin, 7 jours sur 7. C'est le 09 74 75 13 13. C'est Info Joueur Asso Service. Info Joueur Info Service.
Il y a deux fois info.
Joueur Info Service. Je vais pas y arriver.
Et c'est pas le numéro de boule, ça.
Non, c'est pas mon numéro.
Le numéro de boule, on a une page Facebook, le Tilt Show. On m'en message privé, on vous le donnera, vous inquiétez pas. Les admiratrices.
Bien sûr, on en reparlera. Du coup, ils sont quand même disponibles par téléphone, mais ils sont aussi disponibles directement sur leur site internet via chat. Et donc,
Joueur Info Service.
Voilà, si jamais vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous avez des problèmes avec le jeu, n'hésitez pas à les contacter, ils sauront vous orienter et vous conseiller.
Ouais, l'idée, c'est aussi de pouvoir juste en parler, parfois.
Parler, et puis voilà, c'est juste se sentir écouté vis-à-vis de ça, parce que des fois, c'est un milieu où on peut se sentir exclu un peu du monde par les gens, parce que c'est vrai que tout le monde ne comprend pas ce que peut être une addiction au jeu de hasard, quoi.
Absolument.
Et ouais. Oui, petite apartheid, si vous voulez nous suivre, on a une page Facebook, le Tilt Show, donc avec plaisir, on vous retrouve dessus.
Oui, absolument. Et puis, ben, vous retrouvez aussi nos émissions en podcast sur le site de Radio Graphite. Voilà,
ouais, il faut écouter à fond, hein. En boucle toute la journée.
Vous allez nous adorer. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci, chers acolytes.
Merci à tous.
Pour
bonne soirée.
Troisième émission. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.